nuit de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le style Becker, le style Jacques Becker. Selon ses historiens et critiques, des scénarios, parfois très minces, le couple ou le groupe comme personnage plutôt qu'un individu isolé. Les acteurs très dirigés. Et puis les thèmes de l'amour qui s'oppose à l'amitié, de la trahison, de la fidélité. Alors les titres, plus connus, Goupil Main Rouge, Falbala, Antoine et Antoinette, Rendez-vous de juillet, Édouard et Caroline, et puis, et bien sûr, Casque d'or, Touchez pas au Grisby, Le Trou. Jacques Becker était l'objet d'études, plus précisément l'œuvre de Jacques Becker était le sujet d'un mardi du cinéma proposé par Francesca Isidori le 30 janvier 1996 sur France Culture. Et j'oubliais, nous aurons aussi rendez-vous rue de l'Estrapade.
Mardi du cinéma, Jacques Becker, une émission de Francesca Isidori et Christine Berlamont.
Au tournage, il n'avait aucune patience pour les techniciens, toute sa patience était pour les acteurs. Voilà. Toute sa patience était pour les acteurs. Les techniciens, ils pensaient qu'ils avaient un métier, qui était un métier, disons, protégé, c'est-à-dire en dehors du trac, en dehors de toute émotion. Alors que l'acteur, quand on dit moteur et qu'il choue, il est tout seul et il faut qu'il crée immédiatement, qu'il fasse passer des sentiments. Donc il avait une patience d'ange avec les acteurs. Et toutes les fois qu'un technicien demandait une minute de plus pour lui, il se fâchait, il se mettait en colère. C'est très difficile avec les techniciens.
C'est pas très vrai difficile. Que vous allez nous renvoyer. Vous nous gardez, hein?
Je ne vous ai que trop gardé. Vous ficherez le camp, ta mère et toi, demain matin.
Oh non, dites maîtresse.
Demain au petit jour, dehors.
Non, je ne veux pas.
Tu ne veux pas. Ah, tu ne veux pas.
Ne faites pas ça, maîtresse.
T'es volontaire
maintenant, toi ? Ne fais pas ça ! Ne fais pas ! Ne fais pas ! Avec José Giovanni, Daniel Gelin, Marc Morette, Jean Buvet, Claude Naumann, Laurence Javarini et les voix de Jacques Becker et Anne Vernon.
Quand il piquait des colères, Jacques est terrible, très très violent. Puis il était très attachant parce que il était très maniaque. Alors il avait une maniaquerie qui lui allait bien. C'est-à-dire que ce qui se passait avec lui, c'est que tous ses traits de caractère lui allaient bien. Il était d'une élégance magnifique, hein, c'était l'homme le mieux habillé de Paris, il avait un côté, vous vous souvenez, son physique, étrange. Hein. Il avait un physique étrange, il avait une figure assez longue, et il n'avait pas, on aurait pu penser qu'il n'était pas français. Il était d'une nationalité, il aurait une nationalité imprécise, on aurait dit qu'il était sud-américain, comme ça, on aurait bien cru à ça. C'est un homme de goût, il faisait aucune faute de goût. Aucune faute de
à 25 francs, 46 francs.
Je m'aurais bien une petite lichée de vin rouge avec un biscuit.
Quand j'ai dit non, c'est non.
Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi.
C'était le cinéma français par excellence, c'est-à-dire le cinéma français dans le sens formidable de l'observation, du détail. Il avait, si vous voulez, cette élégance, cette curiosité, cet amour des êtres, cet amour de tout, du petit détail, et ce goût qu'il avait hérité probablement de Jean Renoir, cet humanisme, ce sens de l'humain, ce sens du formidable naturel. Et il y avait une tellement de grande sincérité dans sa façon de faire, une très grande élégance qu'il avait naturellement dans tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, que cette élégance passait dans ce quotidien. C'est-à-dire qu'il avait, son vrai truc, c'était de rendre spectaculaire des choses qui ne le sont pas.
Chemin faisant, que ce fut tendre, d'où ira d'eux le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie.
Non, tu joues trop fort, je suis obligé de gueuler. Allez, on reprend.
Il m'avait dit, quand on a commencé à faire l'or du Cristobal, et qui m'a pris comme assistant, il m'avait dit, écoute, je te préviens, le premier jour, hein, dès qu'on commencera à travailler, pas tout de suite, mais au bout de dans la journée, je piquerai une colère. Et je piquerai la colère contre toi. Hein, je te préviens tout de suite, c'est pour asseoir mon autorité et pour que tout le monde comprenne que je ne plaisante pas, hein, et qu'on peut pas me manœuvrer. Il l'a pas fait.
Becker déclarait « Le sujet ne m'intéresse pas en tant que sujet. Seuls les personnages de mes films m'intéressent. »
Jean Vivet.
Et je crois que ça, c'est important. C'est une clé quand même de lecture extrêmement importante par rapport au cinéma de Becker. Et lorsqu'il parle de ses personnages, il ajoute aussi « Je ne peux concevoir un personnage sans m'inquiéter de la manière dont il vit, de ses rapports sociaux, quelle que soit d'ailleurs à la classe à laquelle il appartient. » Donc je crois que c'est un petit peu une des clés du cinéma de Becker qu'on n'a malheureusement pas tellement voulu voir au cours des décennies de critiques, qui est que il a brossé des tableaux, et Dieu sait si les tableaux qu'il a brossés sont variés, puisque ça va du milieu paysan avec Goupil Main Rouge, le milieu de la haute couture avec Falbala, le milieu de la prison avec Le Trou, enfin, etc. On peut prendre tous les films de Becker, ils sont toujours très précisément situés dans un milieu social.
Mais, et dans une époque.
Et aussi. Dans une époque, évidemment. Mais pour lui, ce qui importait avant tout, c'était ses personnages. C'était de situer sa démarche, en fait, consistait à faire un décor, je serais tenté de dire, qui soit le plus juste, le plus exact possible, pour après y placer ces personnages, les faire évoluer et les mettre en relation et essayer de creuser, de fouiller la psychologie, la nature profonde en fait de l'être humain. C'est ça, enfin pour moi, c'est ça le fond du cinéma de Becker, et c'est bien souvent ce qui a été passé sous silence.
Numéro 7, rue de l'Estrapade. Je crois que c'est du côté du Panthéon.
Pâquerette dans cette fameuse séquence avec la pomme au début de rue de l'Estrapade.
Claude Neumann.
Jacques Becker lui avait dit, bah, écoutez, vous croquez la pomme, enfin la poire plutôt, et puis vous donnez votre réplique. Et puis en fait, cette dame, qui n'était pas une actrice, je crois, très chevronnée, c'était une des rares fois où elle faisait du cinéma, elle n'avait pas osé croquer dans le fruit de peur de le dégrader. Alors elle avait fait semblant, et puis lui avait dit, évidemment, joliment, ben vous pouvez la manger jusqu'au bout, c'est pas grave, elle avait pas osé croquer dans cette poire de peur de la détruire. Alors c'était très amusant parce qu'elle croyait qu'on n'avait qu'une seule poire au cinéma pour recommencer 5 ou 6 prises, donc c'était assez étonnant. Mais c'est vrai que c'est une scène, je crois, qui est très symptomatique du cinéma de Becker, c'est-à-dire prendre des petits moments comme ça dans le scénario qui n'ont pas de sens dramatique, qui n'apportent rien au niveau de l'action dramatique, et puis qui font exister les personnages par un mot, par une disposition du corps dans l'espace, par une voix, par un accent, parce que c'est vrai que les personnages secondaires, même, on pourrait dire périphériques, c'est-à-dire des tout petits personnages qui apparaissent une ou deux fois, Becker est très intéressé de les faire exister, et de les faire exister justement par soit un dialogue un petit peu savoureux, ça c'est classique dans le cinéma de la 4e République, soit par justement une place dans le dispositif du film, un plan particulier. Et c'est vrai que cette séquence avec Pâquerette dans Rue de l'Estrapade, elle dénote complètement par rapport au début du film, ce qui fait que c'est une séquence dont on se souvient, alors que le personnage de Pâquerette, c'est un personnage qui n'est pas extrêmement important dans le film.
Monsieur tout le monde !
Allez, viens l'entrée ! Sans tout ça ?
Oui.
Vous fâchez pas, vous danserez après. Pour l'instant, asseyez-vous. Parce que je voudrais parler aux hommes, aux copains d'expédition.
Eh ben nous, alors, il faut qu'on s'en aille.
Mais non. Allez, assieds-toi. Je n'ai pas pour longtemps. La fête continuera ensuite.
Vous êtes pas bien.
Allez, assis. Allez, allez. Assis.
Non, mais tu joues à quoi?
Tu vas voir.
Oh, ben, t'es pas drôle, toi. Si on danse pas, je veux manger. Moi, j'ai faim.
Eh ben, tu mangeras tout à l'heure. Oh. Allez, assis. Allez, allez. Écoutez bien. J'ai réussi. On va pouvoir partir.
Non.
Si. Tout a marché. J'ai signé hier l'accord définitif avec les productions César. T'as raté 12 appareils de prise de vue. Il les a examinés, ils sont en bon état. On aura 10 000 mètres de pellicule négative et 500 000 francs d'argent frais. Ça financera l'expédition. Nous, nous connaissons le film.
Formidable! Oh, Lucien, t'es formidable!
Et c'est pas tout. Ce matin, j'ai obtenu du ministère de l'Air qu'un avion militaire, ou même deux, soit mis à notre disposition pour nous transporter, nous et notre matériel, sur les lieux mêmes, à Brazzaville. L'expédition terminée, nous reviendrons par le même moyen.
Ah non, mais c'est extraordinaire!
Bravo, Lucien! Ah non,
la façon dont il a de construire ses personnages principaux, elle me paraît fondamentalement différente de ce qu'on voit dans les cinémas de la 4ème République. Je crois, d'abord, il construit ses personnages principaux, il refuse en fait le statut du héros ou du protagoniste principal unique. Alors, c'est le refus du personnage principal au profit de ce qu'on pourra appeler un personnage groupe dans Goupil-Main Rouge, dans Rendez-vous de juillet, dans Le Trou, ou d'un personnage couple, là, bon, c'est plus classique dans les trois films de couple, Édouard et Caroline, Antoine et Antoinette, et puis Rue de l'Estrapade. Mais c'est vrai qu'il a la volonté, dès Dernier Atout et jusqu'au Trou, de refuser le plus possible la construction du scénario avec une progression dramatique linéaire appuyée sur un acteur principal extrêmement connu avec des rebondissements voire un suspense. Ça n'intéresse pas Becker. Il essaye au contraire de construire des personnages qui soient multiples, avec plusieurs personnages principaux, de les faire coexister les uns auprès des autres, dans un même plan. D'ailleurs, ça c'est assez frappant que Becker utilise très très peu les gros plans, parce que je crois qu'il a très envie de ne pas isoler les personnages. Il y a beaucoup de plans rapprochés ou de plans d'ensemble, mais qui regroupent plusieurs personnages. On voit ça dans Goupil-Main Rouge. Vous avez la présentation de la famille Goupil. Hein, au début du film, la caméra fait un immense travelling comme ça qui part du personnage de Goupil-Mistou, qui va en fait jusqu'au vieux personnage de Goupil l'Empereur. Et on voit toute la famille comme ça dans un travelling. Ils sont tous réunis dans le même plan. C'est la même chose, par exemple, dans Le Trou. C'est quand même un espace clos, circonscrit, hein, qui est très, très petit. Et Becker, à l'intérieur de cet espace aussi exigu, fait des légers travelling, des légers panoramiques, qui sont pas toujours d'ailleurs discernables à l'œil nu. Mais quand on revoit les films, on se rend compte qu'il y a un mouvement de caméra qui inclut tous les personnages, les 4 ou 5 personnages du Trou, par exemple, dans un même plan.
Quoi ?
Oh là là!
Yes.
Attends. Voilà!
Sans blague, t'es devenue folle?
Défais-moi ça tout de suite!
Qu'est-ce que tu veux que je défasse? C'est coupé!
Coupé? Où sont les morceaux?
Pourquoi faire?
Je veux voir les morceaux! Non mais regarde-toi! Regarde-toi!
Eh ben justement, c'est formidable.
Ça surprend peut-être un peu au début, mais c'est formidable.
Voyons, Doudou. Tu as failli l'abîmer. Mon petit Doudou, calme-toi, voyons. Domine-toi. Écoute, je vais t'expliquer bien gentiment. Tu n'es peut-être pas très au courant de la mode, mais toutes les femmes élégantes portent maintenant des robes du soir courtes.
Pauvre malheureuse.
Parfaitement. Tout le monde porte des robes du soir courtes, sauf des gros paysans abrutis comme toi.
Eh ben moi, j'en ai jamais vu.
Attends. Tiens, regarde.
On va prendre, je sais pas moi, un film comme Édouard et Caroline ou Antoine et Antoinette ou Rue de l'Estrapade, qui sont les trois films de couple. Vous avez les deux personnages qui sont deux personnages principaux à peu près équivalents. Lorsque la caméra quitte l'un, elle montre l'autre. Lorsque, bon, ils sont ensemble, on veille à les montrer le plus souvent dans le même plan. Si, au moment de la séparation de l'Estrapade, c'est assez intéressant, ils filment autant Anne Vernon que Louis Jourdan. Et souvent, au même moment, on les voit tous les deux s'endormir. Au même moment, c'est montré à l'écran par une pendule ou une horloge. En fait, la volonté de Becker, c'est de montrer que, même séparés, ils doivent exister de la même façon. Hein, on parle de fréquences d'apparition qui sont équivalentes entre les deux personnages principaux. Ne pas valoriser l'un par rapport à l'autre. Ne pas rentrer en fait dans le schéma classique du cinéma de ce qu'on appelle la qualité française, c'est-à-dire orienté sur un seul personnage omniprésent autour duquel tourneraient des personnages secondaires faire valoir. Becker se refuse à ça.
Et ce qui échappe aussi un peu à la tradition du cinéma français, enfin de ces années-là, c'est le choix de Becker de scénarios plutôt minces.
Oui.
Bon, le cas extrême étant peut-être celui de Édouard et Caroline, mais aussi dans d'autres films. Et d'ailleurs, il disait qu'est-ce que ça veut dire une histoire mince ? N'importe qui ne peut pas recréer une histoire simple et en faire un chef-d'œuvre, alors que n'importe qui peut raconter une histoire compliquée.
Mmh. Oui, ça c'est vrai, et c'est d'autant plus vrai dans les films de l'après-guerre. C'est clair que Antoine et Antoinette, Édouard et Caroline, et même Rue de l'Estrapade, sont construits sur des scénarios qui sont extrêmement minces, dont d'ailleurs l'absence même de sujet effrayait les techniciens. Daniel Gélin me racontait que dans Édouard et Caroline, tout le monde s'affolait de la minceur du sujet, de l'absence quoi, de sujet. On se disait, qu'est-ce que c'est de cette histoire autour d'une paire de gifles et d'une robe mal coupée et une histoire de gilet emprunté.
Méchant, Édouard. Qu'est-ce que tu cherches? Tout est sur le lit.
Sauf mon gilet, figure-toi. Tu as une façon de dissimuler mes vêtements dans tous les coins, toi.
Je ne dissimule rien du tout. Je peux trouver n'importe quoi dans mon appartement, les yeux fermés.
Tellement tu as d'ordre.
Non, j'ai du flair, c'est beaucoup mieux. Je vais te la trouver, ton gilet.
C'est vrai que le scénario d'Édouard et Caroline, tiens, il ne tient à rien. Mais ce qui intéresse Becker, c'est justement de montrer des personnages dans des situations. Et pas de montrer les personnages dans une histoire progressive avec une construction dramatique très linéaire. Ça ne l'intéresse pas. Il essaye de faire exister ces personnages davantage par ce qu'ils sont que par ce qu'ils font.
Veuillez écouter l'actualité du cinéma par Simone Dubreuil et Georges Charansol.
1er juillet 1950.
Mon cher Charansol, un film de Jacques Becker est un événement. Or, Jacques Becker ne tourne que très rarement, il tourne environ tous les 2 ans. Et Jacques Becker va enfin tourner un nouveau film, c'est-à-dire apporter quelque chose de neuf au cinéma français. Il a écrit un scénario dont le titre très provisoire est Édouard et Caroline. Eh bien, Jacques Becker, pouvez-vous nous parler de ce film qui certainement sera un des plus importants de l'année?
Écoutez, je ne sais pas si ce film sera un des plus importants de l'année, étant donné que nous entreprenons cette production avec un dessein bien déterminé qui est de faire une comédie, disons, sans prétention au départ, n'est-ce pas ? Si, plutôt, cette comédie a une prétention, elle a celle d'amuser les gens, s'il y a moyen, n'est-ce pas ? Mais elle n'a pas de budget considérable. Nous voulons essayer de faire, pour un prix parfaitement raisonnable et rentable, un film qui soit bon, n'est-ce pas ?
Jacques Becker, vous avez tourné des films très différents, c'est-à-dire vous êtes attaqué en général à des sujets qui n'avaient pas de parenté, enfin de lien apparent. Que sera Édouard et Caroline ? Nous savons que c'est une comédie, mais quelle sera cette comédie ? Est-ce qu'elle se rapprochera des Rendez-vous de Juillet ? Est-ce qu'elle rejoindra Dernier Atout ? Est-ce qu'elle aura des affinités avec d'autres films que vous ayez tournés ?
Mon Dieu, elle peut au départ présenter une certaine ressemblance avec Antoine et Antoinette. Je ne crois pas qu'on puisse se débarrasser... je ne dirais pas d'un style, parce que c'est un mot peut-être un peu prétentieux, mais on ne peut pas se débarrasser d'un genre de choses qu'on aime et qu'on porte en soi, n'est-ce pas ? Je ne peux pas en parler moi-même. Lorsque j'aurai fini le film et que nous aurons l'occasion d'en parler ensemble, lorsque je vous montrerai, eh bien, nous reprendrons la conversation. Mais je ne peux pas dire d'avance que je ferai ceci ou cela, car je ne sais pas très bien comment je ferai.
Mais pour éclairer un tout petit peu les auditeurs, je voudrais que vous nous disiez, Jacques, si ça n'est pas une indiscrétion, quel est le fil conducteur d'Edouard et Caroline ? Ce sont deux êtres, un homme jeune et une jeune femme, mais à quel
je
moment,
que
à quel moment
dans leur deux existence décors, seulement dans deux décors, n'est-ce
oui,
pas ?
Oui, ça se passe dans deux décors. Deux décors qui sont l'appartement où vivent ces deux jeunes gens, qui sont mariés depuis peu de temps, et le décor d'un appartement où ils se rendent le soir même, parce que le film se passe tout entier.
Dans une soirée.
Dans une seule soirée, de 7h du soir à minuit, 1h du matin, n'est-ce pas ? Les jeunes gens en question se rendent à une soirée qui, évidemment, servira de cadre à la partie comédie en question, et rentreront ensuite chez eux, la soirée terminée.
Enfin,
c'est très simple. Il y a pas de, je ne peux pas vous expliquer... c'est une histoire qui repose sur un fait ou une situation déterminée, c'est surtout une suite de petites situations.
Seulement moi, les Beauchamp, je les emmerde.
Je trouve que c'est un film extrêmement réussi et très, très audacieux, parce que si on y réfléchit bien, il n'y avait pas d'histoire.
Daniel Jeunin.
Quand on lisait le scénario, je me suis dit, mais il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. C'est l'histoire d'un jeune pianiste qui doit aller jouer chez les gens du monde, les snobs que Becker voulait illustrer et critiquer un peu. Et puis, il y avait une histoire de robe qui était trop longue, robe qui était trop courte, une espèce de petite scène de ménage dans un couple, mais il n'y a presque pas d'histoire, enfin, des petits trucs de tous les jours, mais tourné dans avec une telle poésie, un tel détail du quotidien, que tout le charme du film naissait de la façon même de tourner et de jouer la comédie.
Je ne l'ai pas quitté de la soirée.
Rassurez-vous, Caroline, Édouard est incorruptible, il n'y a rien à faire.
Alors c'est un saint. Édouard est un saint. Tu penses, Florence a dû lui faire tous ses tours, y compris l'œil de biche, un de ses plus gros succès. Tiens, il faut absolument que vous le fassiez à mon père.
Oh, Alain, ne soyez pas idiot.
Alors, on s'amuse bien tous les trois. Vous ne pouvez pas refuser. Écoutez, papa, vous allez vous prêter à une petite expérience.
Alain, c'est ridicule, c'est une invention diabolique.
Non, Florent, je vous défends de le prévenir, ce sera beaucoup plus drôle s'il ne s'y attend pas. Oh. Vous me faites peur, qu'est-ce que je dois faire? Mettez-vous là devant Florence et vous allez la regarder les yeux dans les yeux. Levez-vous, Florence.
Non, non. Je m'agenouille. C'est le jeu. Bravo.
Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Rien, vous ne faites rien. Regardez bien, Florence, et attendez. Allez-y, Florence.
C'est idiot.
Florence.
Qu'est-ce qu'on fait ici?
Nous pouvons jouer aussi, nous?
Non, 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 non. Que personne ne bouge. Allez, Florence.
Qu'est-ce que j'ai fait?
Taisez-vous.
C'est très agréable, tout ça. Mais on ne m'a pas donné mon rôle et je n'ose pas improviser.
Non, pas ça, pas ça.
Alors, papa, donnez-nous vos impressions, c'est fini, vous pouvez vous lever.
Déjà,
L'expérience est faite.
Ben oui,
vous avez rien éprouvé. Racontez.
Pas grand-chose, chien. Oh désastreux, Blanche, désastreux.
Mon cher, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Avouez. Oh,
tout ce que je peux dire, c'est que notre ami a des yeux ravissants. Ah, ça me plaît, je recommence. Ah, non, vous jouez même, à ma main. Ah, la même chose, la même chose.
Malgré ses maladresses, Édouard conquiert tout le monde dans ce salon, enfin en tout cas les femmes.
Oui, ben il était très naturel, très charmant, puis je crois en plus qu'il jouait très bien du piano.
Et c'est vous qui jouez ?
Oh non, alors tout le monde l'a cru parce que, alors là j'ai une petite anecdote assez rigolote, avait débuté à ce moment-là un garçon, un pianiste, qui est devenu mondialement célèbre, et que Jacques connaissait, c'était Samson François, qui était le grand interprète de Chopin, que moi je connaissais que très peu. Mais finalement, quand je jouais ce morceau de Chopin, c'était sur un playback enregistré par Samson François. Alors c'était remarquable, moi j'avais eu la bande à la maison, j'avais répété, et il se trouve que le hasard avait fait que, à ce moment-là, j'étais marié à Danielle Delorme, et habitait chez moi ses sœurs, dont une des sœurs, Evie, la sœur aînée, qui à l'époque était marié avec Jean Casadesus, fils de Robert Casadesus, immense pianiste. Alors, je lui avais demandé à quel moment du morceau il y a quelque chose de délicat pour le pianiste. L'écartement des doigts, la place des doigts sur le clavier, à quel moment il y a un passage un petit peu angoissant pour l'interprète. Et Jean me l'avait indiqué. Si bien que quand j'ai imité le pianiste, parce que c'est pas moi qui jouais, on voyait mon visage, on voyait mon corps, mais j'avais mes bras croisés derrière le dos. C'était une trouvaille de Jacques Becker. On avait mis juste derrière moi, hors champ, assis sur un tabouret, un jeune pianiste, fils Bernheim, qui était un très bon pianiste lui-même, et qui avait enfilé mes avant-bras d'habit, Robert Lefebvre, le chef opérateur, s'est arrangé pour que le coude qui était dans l'ombre soit un peu plus dans l'ombre que la normale, sans que ça fasse trop truqué. Mais si on avait regardé ça en détail, on serait aperçu quand même que j'avais les bras peut-être un petit peu courts, si vous voulez. Je devais jouer un petit peu comme celui qu'on a découvert plus tard, qui était un très, très fantastique pianiste, qui s'appelait Gould, on avait l'impression qu'il jouait un petit peu comme Gould. Si bien que lorsque nous avons tourné la scène, bon évidemment j'avais le morceau dans la tête, bien dans la tête, je connaissais par cœur, et l'entendant, j'ai reproduit sur mon visage la toute petite angoisse professionnelle que Jean Casadesus m'avait indiquée. Si bien que les gens qui ont vu le film se sont dit, il n'y a rien à faire, il est pianiste, pour voir l'angoisse, il n'y a qu'un vrai pianiste qui... Et comme en plus, c'est très curieux parce que, comme je connaissais le morceau par cœur, ses avant-bras qui n'étaient pas à moi, au bout d'un petit moment, j'avais l'impression que c'était moi. Alors, j'avais dans le visage cette espèce d'ivresse qu'on a quand on joue nous-mêmes du piano. J'étais complètement dupe de moi-même. C'était formidable parce que lorsqu'on disait couper, on voyait ça en projection après. Alors, il y avait mes vrais avant-bras à moi qui revenaient dans le champ. Les avant-bras réels du petit Bernheim qui me doublait s'élevaient dans le ciel. C'était une espèce de statue hindou bizarre, et c'était un gag à chaque fois à la projection. Et ça a duré 2 jours de tournage, mais on a donné le change, et ça a énormément contribué à la véracité de l'histoire.
Très agréable.
Ouais, je l'ai dit.
Anne Vernon, 1977.
Il y a eu évidemment les films de Becker, parce que j'adorais Jacques Becker. Il avait une façon de faire travailler les comédiens qui étaient... Enfin, il les faisait pas travailler, il les laissait vivre. C'est ça qu'il faut faire. Il les choisissait avec beaucoup de... d'hésitation. Il était capable de vous téléphoner à 3h du matin pour vous demander comment on allait. Et oui. Selon la réponse qu'on lui faisait, il vous disait « Tu es Caroline, tu n'es pas Caroline ». Et puis après, il revenait et il disait « Mais après tout, si, tu es Caroline ». Enfin bon, une fois qu'il était persuadé que j'étais Caroline, il m'a engagée. Mais il m'a engagée en me disant, je crois, « Oh, Daniel Darieux est trop âgé, Sophie Desmarais, je sais plus ce qu'elle avait dans son esprit, tant pis, je te prends ». Enfin, vous voyez, il a fait passer des auditions, je sais pas, à 50 jeunes premiers de Paris, tous aussi bons les uns que les autres, avant de prendre Gélin. C'était incroyable. Enfin, Je crois qu'on a signé les contrats après avoir commencé à tourner le film.
Tout va bien, ils sont partis. Tiens.
Merde, merde, merde. Merde. Après ce que tu as fait, je demande le divorce.
Il avait un point commun sur ce point-là avec Jean Renoir. Ils avaient beaucoup de difficultés, souvent, à se décider sur certains rôles, sur quels acteurs pourraient faire certains rôles.
Marc Morette.
Jean Renoir, j'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène, j'ai eu beaucoup de chance. Mais Renoir est le seul metteur en scène que j'ai vu changer d'acteur en cours de film. Et Becker... Bah Becker, par exemple, quand on a préparé Touchez pas au Grisby, il a pris Lino Ventura, il ne trouvait pas son personnage. En plus, il savait qu'il fallait qu'il ait un Italien. Et c'est par hasard le représentant de Del Duca, le producteur, son représentant qui était Italien, qui vivait à Paris, il lui a dit « Écoute, quand j'étais au lycée, j'ai eu un copain italien ». C'est un lutteur, il ne lutte plus parce qu'il s'est cassé la jambe, mais il organise des combats. À mon avis, il devrait te plaire pour ça, il a un aplomb énorme. C'était Lino Ventura.
Entrez.
Monsieur.
Bonsoir, Max.
Tu ne déranges pas trop ?
Penses-tu ? Bonsoir, gros, ça va ?
Dis donc, maman, tu vas nous laisser, hein. Tu peux prendre la bagnole. Max, on va t'expliquer de quoi il s'agit. Il nous fallait l'avis d'un homme de poids pour un petit arbitrage entre nous.
Voilà.
Vas-y, à toi de rouler. Tu sais que c'est moi qui fournis la cam ici depuis des années. Et sans que personne se plaigne, hein. Poids juste et marchandise franche. Attends une seconde.
Il y a certains acteurs que ça dérange beaucoup si on leur change ce qu'ils font pendant la scène... par rapport à ce qui a été répété. Si tout d'un coup, on leur dit « Ben non, ben non, il faudrait faire ceci, cela. » Et je sais, par exemple, quand on a engagé Lino Ventura, Lino, il a eu un texte à apprendre, que c'est sa première tirade. C'était la première phrase qu'il disait dans le film. C'était une tirade, un tunnel, comme on dit dans notre jargon de cinéaste. Et on lui a donné le tunnel à apprendre, et j'ai été chez lui écouter son tunnel. Ça m'a immédiatement frappé, le naturel avec lequel il sortait tout ce texte, cet argot un peu fabriqué, qui n'était pas réel, de Simonin. Et après, tout de suite après, j'ai fait une chose que je savais qu'il faut faire pour savoir si comment un acteur se conduit. J'ai dit, bon, ben, est-ce que ça vous ennuierait de me refaire le tunnel, mais vous fumez, parce que j'avais vu qu'il avait... en allumant une cigarette. Parce que je savais que si on lui disait qu'il fallait faire quelque chose en plus... ça risquait de le troubler. Il fallait savoir. Il a été avec un aplomb formidable pendant son tunnel. Moi, je suis sorti de chez lui, je me suis précipité dans une cabine téléphonique, j'ai appelé Becker et je lui ai dit « Écoute, tu sais que je suis toujours très prudent quand on parle d'acteurs, que je ne te dis jamais, mais je suis sûr, tu te trompes, il faut prendre un tel. Là, je te le dis, tu peux le prendre, tu ne risques rien, au contraire. »
C'était un film auquel vous ne croyez pas beaucoup au départ.
Non, moi j'y croyais pas. Je sais pas si je vous l'ai dit.
Pourquoi vous n'y croyez pas ?
Je sais pas. J'avais manque d'imagination. Je voyais ça un peu comme une question. Un film de gangster. Il en avait jamais fait. Pour un film de gangster, pour moi c'était un peu comme n'importe quoi. Hein ? Et je l'ai dit dans mes préparations d'extérieur, comme on devait tourner Avenue Frochot. Dans l'avenue Frochot, qui est une impasse avec les propriétaires, il fallait que j'aie l'autorisation des propriétaires. Alors le premier que j'ai été voir, il y en avait deux qui habitaient avenue Frochot. Il y avait la veuve de Pierre Renoir, qui habitait au 7 de au premier étage, et au second étage, c'était Jean Renoir. Alors j'ai été voir Jean, et qui m'a dit « Bien sûr, même si tu veux mettre des projecteurs dans notre fenêtre, ça ne gênera pas ». Mais la question, c'était qu'on allait tourner à 3h du matin. Hein, il fallait que les gens soient d'accord. Et il me dit, mais qu'est-ce que tourne Jacques? Alors, j'ai un peu raconté, touché pour Grisby, c'est une histoire de gangster, etc. Et Jean m'a dit, mais non, mais tu sais, les gangsters, ça peut être très poétique, hein, très élégant. C'est ça le rapport entre Jean et Jacques Becker. C'est qu'il savait bien, il a tout de suite compris, même sans lire le bouquin, ce que Jacques allait faire.
Ce rideau. Il m'emmerde, ce rideau, depuis le temps que ça dure. Faut toujours qu'il fasse des conneries. Il est bête. Bon Dieu, ce qu'il peut être bête. Plus marrant, c'est qu'il se prend pour un caïd sous prétexte qu'il est courageux. Là, il est peut-être gonflé, mais ce qu'il peut être con. J'aurais jamais dû me mettre avec un imbécile pareil. Qu'est-ce que j'aurais pas fait dans la vie si je l'avais pas eu toujours derrière moi? Ah, c'est bien de ma faute. J'aurais dû travailler tout seul, parce que j'aurais dû faire. Au lieu de ça, j'ai fait du sentiment. Là, c'est bien pour mes pieds. Mais quelle idée j'ai eue de me farguer d'un outil pareil dans la vie. Je compte pas l'oseille qui m'a fait dépenser depuis 20 ans. Payé pour les avocats, payé pour sa mère. Y'a pas une dent dans la gueule qui ne me coûte pas un maximum. Ben maintenant j'en ai marre, qui se démerde.
Si on prend Touchez pas au Grisby, Gabin. Gabin, c'est un truand. C'est un truand qui vient de commettre un coup assez juteux, qui a ramassé une forte somme, le Grisby. Mais en fait, comment existe Gabin pour le spectateur à l'écran? Il existe par la façon d'être avec Riton, qui est joué par René Darry, par la façon de lui faire la morale, par cette séquence absolument incroyable qui dure presque 15 minutes où Gabin fait la morale à Riton dans son appartement et où lui annonce qu'en fait Lino Ventura les a trahis. Et cette séquence qui dure 15 minutes, qui aurait pu durer 3 minutes, elle se résume à quoi? Gabin annonce à Darry qu'ils ont été trahis. Ça dure 2 minutes. Et qu'est-ce que montre Becker pendant les 15 minutes? Il montre d'abord toute l'entrée dans la maison. Alors, l'entrée dans le couloir, le passage dans l'ascenseur, on ouvre les portes, on en referme, les allées et venues, on arrive dans la maison. Gabin dit à Darry, je vais t'expliquer, mais pas tout de suite. Il sort sa bouteille de vin blanc, sa petite boîte de pâté, et on tartine, et on met un temps comme ça. Les personnages existent parce qu'ils sont à l'écran, c'est-à-dire il y a en fait une complicité, alors que le dialogue même aurait pu être tourné en 2 ou 3 minutes. Et puis, quand Gabin a terminé de dire à Riton, en fait, qu'ils ont été trahis, qu'est-ce que montre Becker? Deux hommes de 50 ans qui se mettent en pyjama, qui se brossent les dents. On voit Riton regarder comme ça dans sa glace les cernes qu'il a. On voit Gabin fumer sa dernière cigarette. On voit une espèce de couple avec aucune nuance homosexuelle, je ne crois pas que ce soit le propos de Becker, c'est vraiment un couple d'amis, mais un couple qui vit depuis 20 ans ensemble, comme on l'apprend, et on voit ce couple vivre ensemble, se coucher dans deux lits séparés, se disputer ensemble, et c'est par cela que les personnages existent, et non pas par l'action même, qui est assez limitée, en fait. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une fusillade à la fin du film, qui n'est pas d'ailleurs le meilleur du film, mais je crois que Becker sacrifie un peu à la fusillade, parce que c'est un film policier, un film de gangster, un film de criminel, donc il faut qu'il y ait quelques coups de feu. Mais on voit bien que dans le temps du film, hein, ça dure quoi, 5-6 minutes cette fusillade? C'est pas le propos de Becker. Le propos de Becker, c'est de montrer en fait un couple de vieux truands qui est en train de vieillir, dont l'un a conscience qu'il faut absolument décrocher, et l'autre va encore jouer le dur, le dragueur. Il y a des séquences comme ça, vraiment dans Touchez pas au Grisby, qui sont très très étonnantes sur cette rupture de ton, je pense, quand Angelo enlève Riton. C'est le meilleur ami de Max, donc, qui est joué par Gabin. Gabin, au lieu d'aller tout de suite, comme dans un autre film policier, courir à la recherche de son ami, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on pourrait appeler la pause érotique. Toute l'après-midi, il va la passer avec une femme qui est une de ses anciennes maîtresses. Au lieu d'aller chercher son ami, voilà, il va manger avec elle et il passe toute l'après-midi au lit. Puis le soir, il se dit, oh, quand même, je suis pas sympa avec mon ami. Et cette rupture de ton comme ça dans le film montre que ce qui l'intéresse, c'est pas l'action, c'est vraiment les situations. C'est les rapports entre les personnages. Ce sont les personnages, en fait, qui intéressent Becker, et pas du tout l'action. Mais c'est vrai que c'est difficile de construire des personnages en dehors de l'action, parce qu'il faut les construire par des petites annotations différentes, par une tenue vestimentaire, par un soin au décor, par un soin à la situation même dans les plans, hein, comment on est filmé, comment ils se déplacent d'un univers à l'autre. Ça, c'est très particulier chez Becker. Et cette façon de construire les personnages, elle est assez novatrice dans le cinéma de la 4e République. C'est pas tellement au niveau de la façon de filmer que Becker est original. C'est dans la façon de construire ces personnages, justement, qui ne sont pas fondés sur un scénario construit avec des dialogues qui seraient des dialogues littéraires, comme on en trouve souvent dans le cinéma de la 4e République. Hein. Becker n'aime pas les mots d'auteur. C'est un ennemi des mots d'auteur. Il aime le langage qui est très écrit sur le scénario, mais qui est toujours adapté au statut sociologique du personnage. Pourquoi ? Parce que Becker ne veut pas ce qui apparaîtrait comme quelque chose de factice, qui peut apparaître d'ailleurs comme factice aujourd'hui, ou savoureux, hein, dans le cinéma, je vais penser, je sais pas moi, au scénario de Janson, par exemple. Quand Janson écrit les dialogues d'Hôtel du Nord, c'est vrai que ça n'a absolument rien de réaliste. C'est une construction littéraire qui est extrêmement savoureuse, mais qui ne va pas dans l'esprit de Becker.
Le tournage de Touchez pas au Grisby, ça a été, c'était le paradis.
Ben alors, patron, et la musique ?
C'est des rigolos.
On choisit pas toujours sa clientèle.
Comme vous dites, cher ami.
Ah, bonjour, mon petit.
Jo, sans blague.
Salut Raymond, ça va ?
Montre-toi voir un peu. C'est marrant, t'as presque pas changé à part les vacances.
Et pour ces messieurs, qu'est-ce que ça fera ?
Serre-nous dans la maison. Si vous voulez bien me suivre.
Dis donc, Mandat, tu me rejoindras ?
Check.
Comment tu t'es appelé ? Mandat. Ouais, je m'appelle Mandat maintenant.
Tous les noms se valent.
Tu sais que ça me fait plaisir de te revoir. Ben moi aussi, ça me fait plaisir.
Si on regarde son cinéma de très près, et qu'on surtout on regarde les films les uns à côté des autres, et les uns par rapport aux autres, pas simplement se contentant de les considérer comme des moments, on s'aperçoit qu'il y a une grande cohérence, qu'il y a un certain nombre de thèmes qui unissent le cinéma de Becker, et qu'on a une œuvre qui est vraiment d'une grande cohérence. Alors, si on peut parler des thèmes que l'on trouve dans le cinéma, bon, il y a des thèmes qui sont importants, qui sont l'amour et l'amitié, qu'on retrouve très très souvent dans le cinéma de Becker. Et la mise en relation, d'ailleurs, de ces deux thèmes, fait que pour Becker, bien souvent, ils s'excluent l'un l'autre, quoi, et que lorsqu'on a une amitié très forte, l'amour n'arrive pas à se développer. Bon, c'est le cas, par exemple, de Casque d'or, où on s'aperçoit que ce qui conduit finalement le couple Marie-Mandat, Simone Signoret, Serge Reggiani à sa perte, c'est finalement la fidélité à l'amitié de Mandat, du personnage joué par Serge Reggiani, qui, pour sauver son ami Raymond, qui a été accusé injustement d'un meurtre que lui-même a commis, il va tout sacrifier, y compris cet amour, cette passion qu'il a pour Marie Simone Signoret. Donc il y a beaucoup de films de Becker où on s'aperçoit que c'est l'amitié qui prime, qui a une difficulté à faire coexister ces deux sentiments. Il y a d'autres thèmes aussi qui sont très forts. Il y a un thème qui est très très fort chez Becker et qui joue un peu comme un ressort dramatique dans pas mal de films. C'est le thème de la trahison, de la fidélité, de la trahison. Et cette idée de trahison, c'est un petit peu une ligne de force qu'on retrouve dans beaucoup de films. Donc ça commence avec Dernier atout où le frère et la sœur, les deux bandits du film, se trouvent dans une situation où la sœur va trahir son frère, et ce qui va conduire à sa perte. Bon, ça c'est la première situation de trahison dans le cinéma de Renoir. On en trouvera beaucoup d'autres dans le cinéma de Becker, pardon. Oui, c'est vrai qu'ils sont tellement liés que parfois on peut confondre. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres films où la trahison va être importante. Bon, ce sera dans Goupil main rouge avec tout ce que va faire Tonkin et qui va conduire à trahir finalement le clan des Goupils, à l'exclure du clan des Goupils. Ce sera dans Falbala, la trahison de Clarence qui va traduire son ami Daniel Rousseau en lui volant sa fiancée Micheline. Ce sera dans Casque d'or où il y a toute l'intrigue du film est résumée en fait par un nœud de trahison de la part de Félix Leca, le chef de bande qui est prêt à tout pour récupérer Marie et qui va mettre en œuvre toute une série de trahisons, et ça va culminer, enfin je passe, dans d'autres films on retrouve le thème de la trahison, mais ça va naturellement culminer dans Le Trou, le dernier film de Becker, où le film est bâti pour arriver à la trahison de Gaspard, la trahison de la tentative d'évasion. Donc c'est un des thèmes très 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 forts du cinéma de Becker.
Je vous remercie de votre aide à toutes. Seulement, à votre santé.
Et à la santé de la collection.
À la santé de la collection.
Voilà. Qu'est-ce que tu as? Tu trembles comme une feuille.
Viens dans mon bureau tout à l'heure, j'ai hâte de parler.
Vite, madame Solange. À votre santé, monsieur.
À ta santé, mon fils.
Falbala se passe pendant l'occupation. Et pas situé dans le temps, mais on comprend que c'est l'occupation. Puisque dans les rares extérieurs qu'on voit, il y a les vélos taxis, il y a des choses comme ça. La mode, c'est la mode de l'époque. Quand on la revoit, c'est monstrueux, de laideur. Les étoffes sont vilaines, c'est des étoffes de l'époque. C'était Rochas qui habillait les dames. Il a écrit son scénario. Ça l'intéressait beaucoup, le milieu de la mode, parce que sa mère était donc dans la couture. Il avait ça à cœur, ça l'intéressait. Mais ça se passe pendant l'occupation, mais on ne voit pas un Allemand. Le tournage n'a pas été facile parce que on tournait au studio, on a surtout tourné beaucoup au studio, il fallait tourner de nuit parce que pendant la journée, on n'avait pas le droit à avoir de l'électricité. Donc on tournait de nuit à Francoeur, c'était pas facile, c'était assez dur, mais enfin sinon non, ça n'a pas été particulièrement difficile. Et on a fini ça, il y a des bruits qui courent, disons ça a été fini après la libération, c'est pas vrai. Le film est sorti après la libération, mais le film était terminé, monté et tout, en avril 44.
J'ai beaucoup de tendresse pour Falbala, parce que c'est le premier scénario original qu'il écrit. C'est un peu l'évocation de son milieu d'enfance, une maison de haute couture où travaillait sa mère. C'est un film qui est un peu étonnant sur l'occupation comme ça, parce que ça se passe vraiment pendant l'occupation. À un moment donné, on voit Raymond Rouleau signe un papier, et il est marqué juin 43. Donc on est vraiment dans la période de l'occupation, mais paradoxalement, on ne voit pas évidemment les Allemands. Et cette espèce de présence-absence, comme ça, donne un drôle de charme à ce film.
C'est un film qui a été un échec.
Oui, qui ne marche pas trop, parce que Becker, effectivement, avait fait un gros succès avec Goupil main rouge, il avait fait également un gros succès avec Dernier atout, et Falbala ne marche pas parce que l'époque de la libération fait qu'on est porté par les grands sujets. Et Falbala, c'est vrai que c'est le début de la période de Becker qui commence à se désintéresser des sujets. Au fond, Goupil main rouge et Dernier atout, il y a quand même un sujet. Enfin, dans Goupil main rouge, il y a un sujet. Alors que Falbala C'est un être un peu particulier quand même que ce personnage-là de couturier qui va basculer dans la folie et qui dénote dans le cinéma de l'immédiate après-guerre. C'est vrai que c'est un film assez étrange. Étrange par son sujet, étrange par le personnage dominant hein, qui est joué par Raymond Rouleau. Peut-être étrange aussi par cette façon de montrer progressivement un basculement vers la folie. Et c'est un film qui n'a pas d'audience, qui n'a pas d'écho, et même encore aujourd'hui.
42. Numéro 42, Rosine. Pi 42, Rosine.
Falbala, il disait, dès qu'il s'est agi de montrer que Clarence était fou,
J'ai pataugé.
Je crois qu'il disait pas la vérité. Parce qu'il me semble que c'est une des peintures les plus vraies qu'on ait pu faire de la folie au cinéma, et que Becker a touché des choses qui allaient très très loin dans l'inconscient du personnage, et qu'il en avait peut-être été consciemment ou pas un peu effrayé, et qu'il n'est jamais revenu sur ce terrain aussi explicitement. C'est-à-dire qu'on a avec le personnage de Clarence, on a quelqu'un bon, qui est un don juan, une sorte de don juan poussé à l'extrême.
Et qui plus est, qui vit entouré de femmes, puisqu'il voilà. est... couturier, voilà. et on le voit constamment entouré de ses ouvrières.
Voilà. Donc par rapport à l'opposition ou la parenté avec le trou aussi apparaît là-dessus. Le trou, c'est un univers d'hommes où il n'y a que des hommes, avec une seule femme qui joue un rôle très très important lorsqu'elle apparaît. À l'inverse, Falbala, donc c'est un film de femmes, c'est dans un univers, il est emprisonné dans un univers de femmes. Bon, il est emprisonné, je dirais, librement, Clarence, puisqu'il est patron d'une maison de haute couture et qu'il est donc entouré de ses ouvrières et de ses mannequins. Et donc, il passe son temps à séduire, il n'éprouve du plaisir, comme le don juan du mythe, uniquement dans la séduction elle-même. C'est-à-dire, dès que la séduction...
Et dans la collection.
Dans la collection, oui. mais dès que la séduction est achevée, est réalisée, bon, la femme ne l'intéresse plus et il passe à une autre femme. Bon, ça, je dirais, jusqu'à présent, ça serait assez... assez classique. Mais ce que Becker a introduit là-dedans, c'est effectivement ce que vous dites, l'idée de collection, et qui se double donc d'un fétichisme très très marqué, qui passe à la fois dans les robes. Donc il confectionne pour chacune de ses mannequins ou des femmes qu'il séduit, il confectionne une robe, et il fait ensuite la collection des robes des femmes qu'il a séduites, il les met dans son armoire avec un numéro...
C'est un peu comme Barbe Bleue, mais au lieu d'enfermer ou de tuer ses femmes...
Oui,
il collectionne des robes.
Il collectionne la robe, mais là où la comparaison avec Barbe Bleue n'est pas si mauvaise, c'est que c'est pas la collection des femmes réelles qu'il fait, mais la collection de la femme passe par un intermédiaire qui est le mannequin. Il y a un mannequin de femme qui sert, qui est un mannequin dans le salon de couture qui sert à poser les robes, quoi, tout simplement. Et en fait, la maladie de la folie de Clarence passe par une personnification de ce mannequin. Pour lui, ce mannequin de femme est devenu et devient vraiment un être vivant, une femme. Et donc, il y a une relation extrêmement complexe entre le processus de séduction, le processus de création, c'est-à-dire qu'il ne peut créer que lorsqu'il a séduit une femme et que cette femme lui donne son inspiration. Il puise son inspiration de la femme. Et lorsqu'il a créé, il transforme la femme qu'il a séduite, devient le mannequin, et ce mannequin est tour à tour mort ou vivant. C'est-à-dire que lorsque la femme séduite est abandonnée, lorsque la séduction est opérée, que la création qu'il a pu en tirer et réaliser, la femme ne l'intéresse plus, le mannequin devient mort. Et on a dans Falbala une séquence que je trouve absolument extraordinaire au niveau de la puissance des vocations de Becker, au niveau de la concision, qui est la première rencontre de Clarence et de Micheline, donc la femme qui va séduire l'héroïne du film. Et lorsque Micheline rentre dans son salon d'essayage, elle voit le mannequin. Elle s'adresse à Clarence. Donc dans un premier temps, elle voit le mannequin. Elle croit que ce mannequin est tellement bien imité, tellement ressemblant qu'elle croit que c'est une femme vivante. Et elle dit à Clarence, lorsqu'elle s'approche, qu'elle s'aperçoit de son erreur, je croyais qu'il était vivant. Et Clarence lui répond « Non, elle est morte ». Et à travers ça, il y a toute la différence de conception, c'est-à-dire que Micheline, bon, qui est un être normal, qui s'est aperçu de son erreur, qui a vu que le mannequin objet inanimé qu'elle avait pris pour une femme était un objet inanimé, et Clarence, pour lui, en disant « Elle est morte », il a pris « mort » au sens premier, dans l'opposition avec « vivant ». Donc, et quand il dit « elle », »,« elle est morte » et non pas « c'est un objet inanimé », pour bien montrer que ce « elle » correspond en fait à une vraie femme. Et cette vraie femme, c'est sa maîtresse précédente. C'est en fait la maîtresse précédente qui est maintenant mort puisqu'il n'a plus de maîtresse, mais qui va bientôt redevenir vivant puisque Micheline va devenir sa maîtresse. Et on a d'ailleurs dans le film, je pense que c'est pas ce que je dis là n'est pas du tout un hasard, puisqu'on a très souvent dans le film des images, des fondus enchaînés, où on voit soit le visage du mannequin qui se superpose sur le visage de Micheline, ou l'inverse, le visage de Micheline qui se superpose sur le visage du mannequin.
Vous comprenez, Micheline, l'âme de la robe, c'est le corps de la femme.
Chut. Je me demande si Micheline est rentrée.
Attention, veillant Nicole, tu accroches ma roue avec ta pédale.
Mais je n'accroche rien du tout.
Les voilà rentrés avant moi, ça peut arriver.
Oui, ça peut arriver. Qu'est-ce que je disais d'abord?
Vous parliez de votre métier. Vous m'avez dit l'âme de la robe, c'est le corps de la femme. Je n'ai pas très bien compris.
Mais si, voilà. Une robe sans âme, c'est une robe qui n'a pas été faite pour quelqu'un, créée pour quelqu'un. Enfin, pour une femme. Et grâce à elle.
Oui.
Créée, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est.
Dans le catéchisme, j'ai appris que c'était faire quelque chose avec rien.
Au sujet de quoi on parle de ça dans le catéchisme?
Au sujet du bon Dieu. Le premier jour de créer le ciel et la terre.
Oui, c'est ça, c'est ça. À propos, quand entend-il?
Qui ça?
Daniel, parle.
Oh, je ne sais pas, dans deux ou trois jours, sans doute.
Et d'ici là?
Comment d'ici là?
On ne se voit plus?
Ça me paraît difficile. Ah. Il faut que je me sauve.
Alors, au revoir, Micheline.
Au revoir. Téléphonez-moi.
Clarence revient toujours au même endroit. Clarence tourne en rond dans le film et il ne peut pas s'échapper en fait de son bureau, de sa maison de couture, et même quand il décide, parce que Falbala, bon, faut rappeler en quelques mots, il y a deux parties en fait dans Falbala. Il y a une première partie, Falbala commence comme une comédie où on s'amuse finalement des exploits de ce séducteur, et puis très très vite la comédie va tourner au drame, à la tragédie, parce que Clarence va se faire piéger, il va réellement tomber amoureux de Micheline. Et là, plus rien ne va fonctionner pour lui, parce que tout son univers fonctionnait sur ce mode de séduction, création, transfert sur le mannequin, etc. Mais là, tout d'un coup, plus rien va fonctionner. Donc, la création, ça marche plus. Il décide de tout abandonner, de tout plaquer pour partir avec Micheline. Le problème, c'est que Micheline, elle est fiancée, elle va se marier. Donc, même si elle tombe effectivement, elle aussi amoureuse de Clarence, elle a perçu quand même les problèmes de Clarence. Et bon, ça peut pas coller non plus entre eux. Donc il va vouloir partir avec Micheline, mais ça marche pas. Il va revenir, bon, alors en plein délire à ce moment-là, il est en plein délire. Il revient dans sa maison de couture et l'enfermement donc va encore être plus concrétisé dans la scène finale où il s'enferme dans son bureau, un bureau circulaire d'ailleurs, on voit des portes, il y a des portes de partout. Là, il est enfermé et puis il n'y aura pas d'autre issue pour lui que le suicide puisqu'il va il va en fait donc se jeter par la fenêtre avec le mannequin dont il a revêtu la robe de mariée qui s'anime et qui se transforme en Micheline.
Et en même temps qu'il y a cette hallucination où le mannequin devient vivant, À l'inverse, il y a une sorte d'automatisation des personnages, surtout de Clarence et de Micheline, puisque le regard fixe de Clarence et l'impossibilité d'avancer de Micheline une fois qu'on arrive à ouvrir les portes et qu'on s'aperçoit que Clarence s'est suicidé. Il y a donc cette espèce de passage où même les personnages vivants ont quelque chose de la marionnette, du
pantin. C'est ça. Je crois que c'est vraiment là l'idée de l'inquiétante étrangeté qui a été relevée par Freud, où on ne sait plus, enfin, dans les deux sens, qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui est inanimé. Et je crois que les personnages de Becker, qui sont les plus inadaptés et qui ont vraiment le plus de mal, à un moment ou à un autre, se posent aussi, pour eux, on se demande si ce sont des personnages vivants ou si ce sont des marionnettes. Bon, ça, c'est très clair pour Clarence, qui, à partir du moment où il perd tous ses repères, on le voit physiquement dans le jeu de Raymond Rouleau, on a l'impression d'avoir un automate, un personnage qui avance comme pourrait avancer un automate, un robot, et je dirais que ça se manifeste aussi dans d'autres films, ça se manifeste dans Casque d'or aussi de manière tout à fait symptomatique, où on voit Amanda à la fin du film, lorsque lui, c'est pas exactement le même problème. Lui, il n'arrive pas à vivre son amitié, la cohabitation entre son amitié pour son ami Raymond et son amour pour Marie. Enfin, s'il n'arrive pas à le vivre, bon, c'est qu'il y a effectivement toute l'histoire extérieure, les trahisons de Leka, etc. À la fin du film, on a de plus en plus l'impression que le personnage de Manda n'agit plus de sa propre volonté. On a l'impression d'un automate. Bon, à la fin du film, les choses s'accélèrent. Il tue Leka, il va mourir à la guillotine. Et on a l'impression, lorsqu'on voit ce personnage, que c'est plus un être vivant. Reggiani est soudain transformé en une sorte de robot qui tue et qui avance vers la mort parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
C'est quand même assez frappant dans ce cinéma très ordonné, très précis, où rien ne déborde, très encadré également. Hein, ces fins qui reprennent des plans du début.
Laurence Javarini.
Il y a à l'intérieur de ça la description de véritables folies. Je pense à Goupy Tonkin dans Goupy Main Rouge, hein, celui qui a fait la guerre d'Indochine. Il y a bien sûr Falbala, avec même... la même tension de la folie vers le fait de se jeter dans le vide, vers le vide. Et je crois que le temps mesuré est une espèce de corollaire et d'antidote également à l'attirance vers le vide. Et il y a également le personnage du traître dans le trou, qui est tout près de la folie et d'une folie qui est liée à la solitude. Ce qu'on voit très bien quand il est au parloir avec son ami, où on se rend compte que c'est un personnage qui est fondamentalement seul.
Allô ? Qui ? Gaspard Claude ? Je l'ai sous la main, je vous l'envoie. Je vous demande au parloir.
Ménard, embrasse-la pour moi.
Numéro 1.
Mais comment as-tu fait ?
Je me suis arrangée avec la secrétaire de l'avocat. Tu vois, je me débrouille, moi. C'est pas comme toi. Tu n'as même pas trouvé le moyen de me faire passer une lettre. Si seulement je pouvais t'écrire.
Raconte. Tu vis toujours chez ta sœur ?
Bien sûr, la maison m'appartient autant qu'à elle. Seulement, on ne se parle pas. Elle mange en bas et moi dans ma chambre. Elle est encore folle amoureuse de toi, tu sais. La nuit, j'entends sangloter sur son lit. Si tu veux la voir, elle viendra tout de suite.
Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Si tu lui demandes toi-même maintenant, elle retirera sa plainte.
Ce n'est pas ce que m'a dit l'avocat la dernière fois. Il m'a dit qu'elle refusait. Absolument.
Elle veut nous punir, quoi ? Écoute, j'ai bien pensé. Je vais partir en Angleterre, soi-disant pour un an. Ça va la calmer.
Pourquoi en Angleterre?
Pour apprendre l'anglais, tiens. D'ailleurs, j'ai toujours voulu.
Nicole, si tu savais comme j'ai envie. J'ai envie.
Quand tu sortiras de prison, je reviendrai. On pourra.
Et toi, est-ce que tu as envie?
Tu es bien curieux, dis-donc.
Pas de coquetterie, Nicole, ça m'agace.
Le film que je vais tourner est tiré d'un roman de José Giovanni, qui s'appelle Le Trou. C'est l'aventure véritable d'une troupe, d'une bande. Je recommence, zéro.
Attention, effacez tout, on recommence, je compte. Non. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Jacques Becker.
Et le film que je suis en train de tourner est tiré d'un roman qui a été écrit par José Giovanni. Ce roman s'appelle Le Trou. C'est l'histoire véritable d'une évasion. Cette évasion a été vécue par José Giovanni, lui-même l'auteur. J'avais pris connaissance du fait divers qui avait paru à l'époque dans le journal et qui relatait cette évasion dans ses détails. À l'époque, je l'avais découpé et rangé dans mes archives. Lorsqu'un jour, j'ai lu un compte-rendu littéraire consacré au roman de Giovanni, j'ai supposé immédiatement qu'il s'agissait de la même histoire, ou plutôt de la même affaire. J'ai acheté le livre, je l'ai lu, et j'ai acheté les droits aussitôt. C'est très intéressant pour moi de retrouver au studio chaque épisode, de recréer plus exactement chaque épisode de cette aventure, de cette évasion, qui est une histoire essentiellement d'hommes. Car les héros de ce film sont tous des hommes. C'est un film sans femmes. C'est également l'occasion pour moi de traiter un thème très important qui est celui de la trahison. Car au fond, c'est l'histoire de Judas. C'est Judas à la prison de la santé.
Gaspard Claude.
C'est moi.
Il y a un colis pour vous à votre prochaine division.
Tiens. T'as l'air bien content, toi, tout à coup. Pourquoi?
Il me plaît de nouveau. Oui, tu peux y aller. Manu, faut prendre une décision. On lui dit ou on lui dit pas?
On lui dit.
Joe.
T'as qu'à décider, c'est toi qui organise.
Manu, faut affranchir de nouveau.
Toi aussi.
On peut pas faire autrement, faut qu'on commence. Parce que toi, tu serais plutôt partisan d'attendre.
Oui.
T'es fou?
Non, moi je ne fais pas confiance aux inconnus. Et quel inconnu?
Non, Manu, t'exagères, qu'est-ce que t'en sais?
Tu verras.
Alors tu vas attendre ici qu'on te juge, qu'on te condamne à mort et qu'on te coupe la tête. Moi aussi, je dois me taper les assises. Faut que tu penses aux autres.
Allez. Le Trou, évidemment, est une histoire vraie. C'est mon histoire, c'est une histoire autobiographique.
José Giovanni.
Quand on a fait cette tentative d'évasion en 1947 à la prison de la santé, il y a eu un fait divers dans les journaux, puisqu'on a échoué, ça a fait beaucoup de bruit, on était vraiment près de réussir, et ça a fait du bruit, donc il y a eu plein d'articles dans les journaux. À l'époque, Becker avait découpé les articles, et ça lui paraissait intéressant, cette évasion qui avait duré plusieurs semaines, et puis le caractère des détenus dedans, tout ça. Et puis c'est tout. Quand je suis sorti en 1956, et puis que j'ai écrit cette histoire, que le roman est sorti, lui, en 1958, Jean Rossignol, qui était mon agent littéraire chez Gallimard, a dit « Ça, cette histoire forte comme ça et à la fois intimiste, c'est un film pour Jacques Becker. » Il lui a donc envoyé le roman, même les bonnes feuilles avant qu'il sorte. À ce moment-là, Becker s'est souvenu du fait divers, il a ressorti l'article qu'il avait conservé. Il a vu que c'était cette histoire-là. Il a cherché à savoir après, parce qu'il était très proche de l'authenticité, si j'étais vraiment authentique, si c'était vraiment moi, etc. Il m'a approché. Bon. Puis ça, c'est long, les décisions avec Becker. On le fait pas. Bon, il m'a approché, très bien. Et puis, finalement, brusquement, il a décidé de le faire. Bon. Mais son problème, c'était que le personnage principal de l'histoire, c'était moi, dans le roman, hein. Et lui, il voulait que ce soit le traître. changeait pas grand-chose parce que le traître était très important. Il avait autant de présence que les autres. Mais lui, il voulait mettre l'accent sur le traître. Il disait que c'était l'histoire de Judas. Bon. Et voilà. Alors, on l'a travaillé dans cette optique-là. Alors, il m'a engagé comme conseiller technique sur l'univers carcéral, puisqu'il ne connaissait pas l'univers carcéral, mais pas comme scénariste au début. Et puis, finalement, en travaillant avec moi, on habitait chez Yves Montand à la campagne, là, avec Simone Signoret. En étant tous les jours avec moi, en m'écoutant raconter des histoires, tout ça, un jour, il m'a demandé d'écrire les dialogues d'une scène que je lui avais racontée, mais qui concernait même pas le trou. Et puis, il a pensé que j'étais un dialoguiste. Il m'a dit, vous ferez les dialogues du film. Comme après, j'étais très précieux quand même pour l'adaptation, entre ce que j'avais écrit et le film, il m'a gardé comme adaptateur dialoguiste. C'est comme ça que c'est arrivé, que je suis devenu son scénariste. Et dans le roman, je sortais de la cellule et de la prison pour aller au palais de justice. J'avais écrit mes démêlés avec le juge, ma famille au palais de justice, tout ça. Et Becker, un jour, dans l'adaptation, ça le gênait de plus en plus de sortir, mais il ne savait pas exactement pourquoi. Oh, il me disait, je sens que quand on, avec la caméra, on s'en va, qu'on fait des plans dans le panier à salade, tout ça. Il y a quelque chose qui ne lui plaisait pas. Et puis finalement, quand on a travaillé sur la fin, dans le scénario, et qu'il a compris l'importance de la vision de la plaque d'égout qui se levait et du taxi qui passait dans la brume, il m'a dit, eh bien voilà, il faut pas sortir de la prison parce que ça doit être le seul plan de liberté du film. Et si on filme en dehors, avec le panier à salade, si on va dans la ville, dans les encombrements, si on va au palais de justice, on sera déjà sorti et ce plan-là sera moins fort. Et ça, c'est la vision d'un grand metteur en scène.
Je pars ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Ça y est, regarde ! On est de l'autre côté !
J'ai sorti.
Godard disait récemment que le cinéma français n'avait jamais eu qu'un sujet, à savoir le prisonnier. S'il en est ainsi, Le Trou est un film unique. La vision de Becker n'est en effet ni celle de Renoir, cinéaste de l'évasion, ni celle de Bresson, cinéaste de la libération. Seul peut-être Becker approche de l'idée de liberté. Moment inoubliable de la santé, vu du couvercle soulevé d'une bouche d'égout, liberté comme ce qui peut n'être qu'une bouffée. C'est de Serge Danet, c'est donc une réflexion de Danet dans les premiers numéros de la revue Trafic qu'il a fondée. Alors évidemment, Danet se servait de, enfin, faisait référence à Renoir et à Bresson, qui étaient le premier, le maître et l'ami de Becker. Le second, son contemporain exact, le Bresson né en 1901, Becker en 1906. Et puis qui avaient commencé leur carrière tous deux dans les mêmes années au milieu de la guerre. 1943 pour Les Anges du Péché de Bresson, 1942 pour Dernier Atout de Becker. Et ce qui m'avait frappé dans cette remarque, c'était que Danet fait référence à l'évasion pour Renoir, la grande illusion, et la libération pour Bresson, un condamné à mort s'est échappé. En faisant référence au film de Becker qu'il mettait en contrepoint de ces deux films, Le Trou, le dernier film de Becker. Donc, et ce qui m'a frappé, c'est le fait que libération, évasion, ça désignait des actes, là où la liberté est beaucoup plus difficile à définir, apparemment plus abstraite, à moins qu'on n'y pense comme à une sensation que donnerait dans les films de Becker Alors, certains moments, en faisant tout un travail, on pourrait faire construire une réflexion sur la manière dont les films de Becker, avec toute leur précision, leur structure apparemment très hétérogène d'un film à l'autre, en même temps trouvent des constantes et construisent véritablement des moments qu'on peut définir par ce terme de bouffée, c'est-à-dire vraiment l'idée d'une sensation. Alors, la réflexion de Danet renvoie à un moment dans le trou, avant la fin, où des prisonniers, le traître et un ami, mettent la tête hors du trou, hors du tunnel, et voient la santé, c'est-à-dire ils voient l'endroit d'où ils viennent. Alors, moment frappant parce que si, à partir du moment où Becker, dans la structure du film, montre ça avant la fin, il était évident qu'il n'y aurait ni évasion, ni libération, mais qu'il ne pouvait y avoir à l'intérieur du film que un moment de liberté.
Et de liberté entrevue.
De liberté entrevue, une bouffée, quelque chose que l'on aspire, quelque chose que l'on prend en soi. Hein. La bouffée, c'est l'idée d'une respiration, en fait, de quelque chose qui est pris en soi, comme ce regard sur l'endroit d'où ils viennent, cette espèce de retournement que construit le film, et qui est maintenu à l'intérieur d'une structure qui reste jusqu'au bout celle de l'enfermement.
Voilà à nouveau.
Dites donc, chef, on est déjà 4 ici.
Et bien maintenant, vous voulez 5?
On attend du travail. On a commandé des cartons pour faire des boîtes, ça va prendre beaucoup de place.
Il n'y a rien qui vous oblige, vous êtes en prévention. Vous allez travailler parce que vous le voulez bien.
Ça vous déplaît qu'on travaille?
Vous foutez pas de moi, hein?
Nous, si on veut travailler, on a le droit.
Je vous dis, voilà à nouveau. Il n'y a pas à discuter.
Moi, je discute. On est déjà 4 ici, plus le travail qu'on attend d'une heure à l'autre. Renseignez-vous.
Déposez votre baluchon. Et vous bouclez là, hein?
Je suis poli, moi, chef.
Laisse Manu, c'est comme ça.
Il y a des chances que c'est comme ça. Je vous apporterai une paillasse tout à l'heure.
Je regrette, mais j'ai pas demandé à venir ici.
Oublie.
Je m'appelle Vosselin. Mais tu peux m'appeler Monseigneur, c'est mon surnom.
Je m'appelle Claude Gaspard. J'étais à la 8e division, on nous a changé pour faire des réparations.
Ici, tu seras bien.
C'est pas l'impression que j'ai eue tout à l'heure.
Je t'ai demandé d'oublier ça.
On va pas recommencer,
ensuite,
non? C'est
fini. Il a travaillé sur le traître. Il m'a dit, moi, ce type, parce que Becker, c'était quand même un homme qui avait été prisonnier de guerre et tout ça. C'était pas un freluqué, un Becker, c'était un homme. Bon. Alors, il m'a dit, finalement, ce type, c'est un caméléon. Il doit pouvoir être très différent suivant dans quelle cellule il se trouve. Il avait senti ça. Moi, dans mon histoire, quand je suis rentré dans cette cellule d'évasion, il était déjà là, lui. Il était déjà là. Moi, il me dit, et si on le faisait arriver ? Un arrivant, il me dit, c'est toujours quelqu'un. Il a commencé par me dire sur lequel on se pose des questions. Parce que s'il arrive et que le projet a déjà commencé, on va donc se poser des questions pour savoir s'il est fiable ou non. Il va être donc immédiatement mis en question. Voilà. Et ça m'intéressait beaucoup dans la démarche. Et puis après, quand il avait ces idées-là, il poussait en plus. Il me dit, il faudrait que vous m'écriviez son comportement dans une autre cellule. Parce que d'où il vient sans doute d'une autre cellule, me dit-il. Son comportement dans une autre cellule. Alors j'avais écrit des trucs qui se passaient dans une autre cellule. Et dans une autre cellule, je lui avais fait prendre un comportement un peu de caïd. Il recevait des colis, il était riche, donc il faisait un peu la loi, là. Et Becker en a profité pour me dire, puisqu'à un moment donné, dans l'histoire, il y a un problème de robinet qui se coince, et que ce robinet, il faut l'arranger. Alors il me dit, puisque plus tard, on va se servir du robinet, on va le mettre dans la première cellule, histoire du robinet, pour qu'il ne marche pas du tout et qu'on les change de cellule. Comme on les change de cellule, le traître va arriver dans l'autre cellule. Oui, c'est le cheminement de Becker, comme ça. Comme ça, il expliquait un peu tout. C'était ça, son travail scénaristique. Il était toujours en difficulté quand il savait qu'il y avait quelque chose à expliquer. Il essayait toujours de mettre une raison avant pour que l'explication coule de source. Comme ça, et qu'on ne se pose pas de questions. Il me disait, le pire, c'est le spectateur qui se pose des questions qu'il n'arrive pas à résoudre. Alors, au lieu de s'intéresser à ce qu'on lui montre, il a toujours dans sa tête un truc qu'il ne comprend pas. Alors lui, pour ça, il était contre. Il était pour la clarification. Aujourd'hui, tous les scénaristes qui travaillent, et les jeunes, tout ça, ils pourraient se pencher sur son œuvre. Ils feraient des meilleurs films parce que ses films étaient clairs. Et les spectateurs étaient très contents. Parce que le spectateur, s'il ne comprend pas, il ne vous dira pas qu'il est trop con parce qu'il n'a pas compris. Il vous dira que c'est vous qui êtes nul, parce que vous n'arrivez pas à vous expliquer. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'était les leçons scénaristiques de Becker.
Il n'est pas bavard, notre ami.
Ah, vous non plus?
Non, il n'y a pas du parloir.
En somme, tu désires t'informer?
Non. Dis-nous seulement comment qu'elle est, brune ou blonde?
Allez, allez.
Eh bien oui, je viens de voir une femme. C'est ça que tu voulais savoir?
Une question, une seule, tu permets? Tu pourras répondre par oui ou par non.
Pose ta question, mais je te promets rien.
Après l'amour, est-ce qu'elle t'enlevait tes points noirs? Elle te les enlevait, oui ou non?
Merde!
Melville écrit... Melville, qui était un grand ami de Becker, hein, et de Giovanni aussi. Donc Melville écrit, en parlant de Gaspard, « Cet ange asexué, ce Lucifer beau comme une fille, au charme duquel le directeur ne reste pas insensible. » Et il écrit un peu plus loin, pour bien préciser les intentions de Becker, son idée de... Donc Melville nous apprend que Becker lui avait confié son idée de remplacer la petite Spack, donc il joue le personnage de Nicole dans le trou, dans la scène du parloir par René Feb. À son retour en cellule, Gaspard n'aurait rien dit, laissant croire aux autres qu'il venait de recevoir la visite de sa maîtresse, mais éclairant ainsi le spectateur d'une façon trop précise sur l'âme de Gaspard.
Donc sur l'ambiguïté, donc.
C'est ça, c'est l'ambiguïté fondamentale d'un personnage. Donc je crois qu'avec le trou qui est vraiment... moi, je pense que c'est vraiment le sommet de la carrière de l'œuvre de Becker. Et donc je crois qu'avec le trou, il a réussi à la fois à avoir une peinture, la peinture d'un milieu qui est extraordinaire de précision. Bon, ça, c'est ce que les critiques ont souligné pendant de longues années et qu'on souligne encore maintenant à juste titre, c'est-à-dire que tout est fait dans le trou pour évoquer à la fois la précision de l'exactitude du milieu carcéral et l'exactitude et la précision de la tentative d'évasion. Mais en fait, cette précision, elle n'est là que pour mettre en évidence, si je puis dire, l'ambiguïté d'un personnage qui est un peu... finalement le résumé de tous les personnages qu'on pourrait appeler, moi que j'appelle pessimistes, c'est-à-dire des personnages qui sont toujours en décalage avec la réalité, qui n'arrivent pas à s'adapter, qui n'arrivent pas à s'intégrer. Donc le personnage de Gaspard dans Le Trou est par exemple à l'opposé complète du personnage de Monsieur dans Goupil-Marouge. Le trou, un petit peu comme Goupil-Marouge, bon, qui sont deux films aux extrémités de la carrière de Becker, présente en fait ces deux récits d'initiation, deux récits d'intégration, où on a un personnage qui arrive dans un milieu qui lui est complètement étranger. Bon, c'est le cas de Monsieur, donc qui arrive de Paris, qui vient voir sa famille paysanne, une famille qu'il n'a jamais vue, puisque ses parents sont séparés depuis très très longtemps. Et dans le trou, ben, c'est le cas finalement de Gaspard qui se retrouve en prison, bon, c'est pas un voyou, c'est pas un bandit, il se retrouve là un peu pour un crime passionnel, un peu par hasard, on serait tenté de dire. Et l'intégration dans les deux cas, le résultat est totalement différent. C'est-à-dire que dans Goupil-Marouge, le récit d'intégration, le récit d'initiation est complètement réussi. L'initiation de Monsieur est complètement réussie, alors que dans Le Trou, l'initiation de Gaspard se traduit par un échec, qui est la trahison, en fait, de la tentative d'évasion par Gaspard. Et ce qui a intéressé Becker, je crois fondamentalement, c'est d'arriver à fouiller un petit peu les raisons qui faisaient que certains arrivaient à s'intégrer et d'autres n'y arrivaient pas.
J'ai bien envie de vous faire descendre au cachot. Qu'est-ce que vous allez m'expliquer? Est-ce que vous alliez faire un trafic?
Je vous assure que je suis de votre poids.
Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le directeur, c'est un détenu de la 11e division qui revient du parloir. Au lieu de retourner à sa cellule, il est venu ici.
Je m'excuse, monsieur le directeur. Mais quand vous êtes arrivé, j'allais justement m'expliquer. J'appartiens en effet à la 11e division, cellule numéro 6. Mais avant, j'étais affecté à la 8e, cellule numéro 26.
Oui. Vous voulez sans doute faire croire à monsieur le directeur que vous avez perdu la mémoire, comme ça, tout d'un coup.
Je suis désolé, mais c'est exactement ce qui s'est produit. Je revenais du parloir, monsieur le directeur. J'étais encore bouleversé. Ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas?
Je vous connais, oui, il me semble.
Oui, monsieur. Je vous avais déjà dérangé pour une histoire sans intérêt, d'ailleurs. J'avais gardé un briquet. Un briquet en or.
Ah oui, en effet. Comment vous appelez-vous déjà?
Claude Gaspard, monsieur le directeur.
Oui, entrez dans ta cellule. Et à l'avenir, tâchez d'être moins distrait.
Certainement, monsieur. Merci, monsieur le directeur.
a fait beaucoup de choses. D'abord, il a refusé qu'on lui fasse des murs lépreux avec des graffitis. Il a exigé un mur clean. C'est un mur, une espèce de gris comme ça, neutre, pour que les visages des acteurs ressortent sur ce mur. N'importe quel autre metteur en scène aurait essayé de faire du réalisme en mettant des murs écaillés qui pissaient d'humidité, etc. etc. Hein? Ensuite, il a fait autre chose pour le film. Il a engagé mon copain qui avait participé à l'évasion avec moi, Roland, et qui était le cerveau de l'évasion, donc le manipulateur, l'adresse. Parce que quand je lui ai présenté cet homme, Becker, fasciné par les objets que cet homme avait fabriqués pour l'évasion, il n'a plus pu se séparer de lui. Donc il l'a engagé comme acteur. À partir du moment où il l'avait engagé comme acteur, il m'a dit maintenant, José, tous les autres doivent être des non-acteurs. Parce que si je prends des acteurs dans les autres rôles, ce garçon va être décalé, et ça paraîtra faux. Mais je prendrai un acteur dans Le Traître, parce que Le Traître, étant un menteur, et jouant la comédie devant eux, du mensonge, est forcément un acteur. Voilà. Dans Le Trou, il y a des acteurs surveillants, mais il y a aussi des figurants qui sont des anciens surveillants. Parce que vous savez, le tour de clé est très difficile. Les surveillants, à force d'ouvrir des milliers de serrures, en même temps qu'ils engagent la clé dans la serrure, ils tournent, ils tâtonnent pas. Vous avez un geste très précis. Pof, clac, la porte. Ça, c'est un vrai geste.
Tiens, là la soupe.
Les bruits de prison, c'est une musique en soi. Becker n'a pas mis de musique. Il a laissé les bruits avec leur résonance. Parce que ces bruits qui se répètent, les ouvertures de portes à une certaine heure, fermeture, la soupe, ce sont la vie de la prison. Si vous mettez de la musique là-dessus, l'univers carcéral s'affaiblit. Donc, pas de musique dans Le Trou. Juste au piano, Wiener à la fin. Ça, c'est aussi un apport d'un véritable grand, je veux dire, metteur en scène, qui vraiment rentre dans l'univers qu'un romancier lui donne, s'approprie cet univers et devient presque... Il le connaît presque plus que celui qui lui a donné l'univers. C'est ça que Becker m'a appris au fur et à mesure de l'adaptation.
Qu'est-ce que t'as foutu pendant 2 heures dans son bureau?
C'est un homme très aimable. Il s'est intéressé à mon affaire, c'est tout.
Ben voyons. C'est même pour ça qu'il t'a gardé pendant 2 heures. Il fait ça tous les jours, le directeur. Tous les jours, il convoque un détenu pour lui faire la conversation. Vous avez sans doute pris le thé.
Je comprends pas ce que tu veux dire.
Raconte-nous ce qui s'est passé. T'es rentré chez le directeur. Il t'a annoncé la bonne nouvelle et après, raconte.
Raconte!
Mais quoi? Qu'est-ce que tu as?
Raconte-nous ce que tu lui as dit.
Manu, tu es fou. Tu crois que je vous ai trahi, c'est ça? C'est ça que tu crois? Je te croyais, mon ami.
Dans Le Trou, Becker filme un groupe, une existence collective de plusieurs personnages. C'est ça qui l'intéresse. Donc, fabriquer, creuser, manger ensemble, c'est tout ce qui constitue le groupe, tout ce qui constitue la collectivité. Et pour Becker, c'est très important de montrer que le groupe existe parce qu'ils ont des actions communes, des situations communes, des moments communs. Et pour Becker, d'ailleurs, dans tous les films, on peut remarquer que dès qu'un personnage, dès qu'il n'est plus avec le groupe, il devient menaçant pour le groupe. Si l'on pense à Gaspard, c'est lorsqu'il quitte le groupe qu'il va dénoncer ses amis dans le bureau du directeur. C'est la même chose dans beaucoup d'autres films. Le cas dans Casque d'or, il est un petit peu en dehors du groupe. Lorsqu'il quitte le groupe pour raconter à l'inspecteur Giuliani que Raymond Bussière a probablement tué Roland, il quitte le groupe. Et il met en péril le groupe. Donc montrer, chez Becker, montrer que le groupe, l'existence collective, passe par
une action collective, une construction des personnages autour de moments communs, autour d'une action commune. Becker n'aime pas les héros uniques, n'aime pas construire ses personnages, enfin n'aime pas construire une histoire autour d'un personnage principal unique, donc Becker n'aime pas la solitude du héros. Et tous les personnages qui deviennent solitaires dans ses films soit basculent vers la mort, Clarence, Modigliani, soit deviennent menaçants pour le groupe. Au fond, il n'a cessé de filmer la difficulté entre le désir individuel et puis la coexistence d'un groupe, le désir collectif. Et s'il n'y a pas de héros unique, c'est parce que Becker, je crois, filme la peur de la solitude.
Non !
Mardi du cinéma, Jacques Becker, avec José Giovanni, Daniel Gélin, Marc Morette, Jean-Louis Vais, Claude Naumann, Laurence Javarini et les voix de Jacques Becker et Anne Vernon. Mixage, Jean-Michel Bernot, Pierre Laya, une émission de Francesca Isidori et Christine Berlamont.
Pas encore, mais bientôt.
T'as confiance?
Oui. Au fait, tu leur as dit?
Non.
Si vous devez me téléphoner, appelez-moi chez Polyric, j'ai plus tout le temps chez mon père.
Non, sans blague.
Oui, vous en faites pas.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 janvier 1996.